Bonjour à tous. On va commencer ces moments. On a déjà commencé ces moments, mais plutôt s'arrêter maintenant dans la parole de Dieu. Et avant, je voudrais prier, si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous donnes à chacun et à chacune, Seigneur, la possibilité de parler de toi. Mais combien la responsabilité est grande. Une mauvaise parole peut conduire une personne, Seigneur, dans la dépression, dans la tristesse, dans le souci. Et combien, Seigneur, nous voulons parler, mais plutôt parler les choses que tu veux qu'on parle, Seigneur. Les choses qui sont justes et vraies, Seigneur. Et ce matin, tu me donnes cette responsabilité et combien, Seigneur, je veux me reposer sur toi et te demander vraiment que toute parole qui vienne de moi-même, les paroles qui, peut-être pour père à l'homme, et combien l'apôtre Paul dit, Seigneur, que nous ne devons pas plaire aux hommes, mais plutôt à toi, l'Éternel. Et je veux vraiment, ce matin, que ce soit ces paroles-là, Seigneur, pour chacun de nous, et qui nous conduit, Seigneur, durant cette semaine, à prendre vraiment ces paroles au sérieux. Dans le nom de Jésus, je te demande toutes ces choses, Père. Amen. Voilà. Il y a maintenant plus ou moins un peu plus d'un mois, mes enfants, ma femme et moi-même ont préparé nos valises pour partir en vacances. Et j'aime bien, avant de partir, de laver ma voiture, même si je suis parti en avion. Ainsi, quand je rentre, ma voiture, elle est propre. Mais j'ai remarqué aussi que Myriam, elle a aussi lavé la maison avant de partir. Et quand je lavais ma voiture, les personnes qui habitent en face de chez moi sont parties en vacances et c'est le papa, ils profitent qu'ils sont pas là, de passer quelques vacances là et en même temps pour garder cette maison. Et lui était en train d'aspirer sa voiture et moi, je lavais ma voiture. Et le lendemain, bien sûr, il faut aussi couper l'herbe, sinon quand tu reviens, elle est haute et c'est difficile. Et quand j'ai eu terminé de couper l'herbe, j'ai vu que cette personne était en train de laver sa voiture. Et je lui dis, on n'arrête pas de travailler. Cette personne, plus ou moins 75, presque, peut-être un peu plus, du tac au tac, il me dit, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves. Difficile à répondre, que je l'ai regardé et je ne savais pas quoi dire. Et pendant ma période de vacances, j'ai pensé à ça. Nous sommes esclaves. Je regardais vite dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, esclave. Ben, c'est tout simple. C'est une personne qui n'est pas libre. Être esclave. Et puis, je voulais savoir un peu dans la parole de Dieu, esclave. Alors, vous mettez esclave dans votre boîte de recherche. Ancien et Nouveau Testament, ça défile. Combien de versets y a-t-il pas esclave, esclave, esclavage? Effectivement, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient esclaves. Mais esclavage, dans la pensée de l'Éternel, était plutôt économique. Plutôt, esclave était une statue sociale pour améliorer les pauvres, pour que les pauvres aient aussi à manger, à boire, pour aussi que la personne ne soit pas seule. C'est pas bien d'être seul. C'est pour ça que je voulais me marier. Mais combien c'est important ne pas être seul. C'était plutôt dans le sens là, être esclave. Mais l'homme, dès la chute d'Adam et de Ève, a été méchant, cruel, et il exagère tout le temps. Dans l'Ancien Testament, on voit directement qu'il y avait des personnes qui vendaient des esclaves, des marchands d'esclaves. C'était pas encore trop grave. Mais vite, on est arrivé à faire du trafic. Je sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire de Joseph, que Joseph a été vendu par ses frères. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on a demandé l'autorisation à Joseph s'il pouvait être vendu? Et Dieu dit, dans Exode 21:16, Deutéronome 24:7, que ces personnes-là seraient punies de mort de faire cela. Punies de mort. Ça veut dire que ses frères de Joseph, logiquement, la punition, c'était la mort. Dans Timothée, l'apôtre Paul donne une série de personnes qui ne respectent pas Dieu, et dans cette série de personnes, il parle des marchands d'esclaves. Ils ne respectent pas Dieu. Un trafic. C'est vrai qu'on pouvait se vendre comme esclave quand on ne savait pas rembourser ses dettes. On pouvait le faire. Ou une personne qui a volé devait rembourser ce qu'il a volé et il était incapable de payer, alors il était vendu comme esclave. Il était vendu comme esclave. Les Israélites souvent se vendaient ou vendaient leurs filles pour être esclaves. Mais Dieu a bien fait les choses. A dit simplement que 6 années, on peut être esclave. Que 6 ans. La 7e année, tu dois être libre. Le maître n'avait plus autorité sur l'esclave. Sauf s'il avait négocié avec le maître pour rester encore esclave. Ou sinon, il était libre. Et en plus qu'il était libre, le maître devait donner des choses pour pas qu'il ait les mains vides, ces personnes. On voit ça dans Exode 21, verset 2. Deutéronome 15, 12 à 15, pour ceux qui prennent des notes. Il y avait aussi des esclaves des prisonniers de guerre. On voit ça dans 2 Rois, au chapitre 5, verset 2. Mais Dieu dit, dans Exode 21, 20, si un homme frappe du bâton son esclave, homme et femme, il précise bien, homme et femme. Et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Les esclaves, on devait bien les traiter. Les maîtres avaient la responsabilité de bien les traiter, ces esclaves. Et dans l'Ancien Testament, à l'époque de Paul, il y avait énormément d'esclaves aussi dans les églises de Corinthe, bien sûr, d'Éphèse, Colosse, Galate. Et là, Paul donne aussi des instructions sur comment les esclaves doivent être traités. Dans Colossiens au chapitre 4, verset 1, il dit « Maître, traitez vos esclaves. C'est vrai, certaines traductions parlent des serviteurs, mais c'est tout à fait la même chose. D'une façon droite et juste. Rappelez-vous que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Ce sont des maîtres là qui sont chrétiens, mais qu'ils avaient des esclaves. Et comment tu dois les traiter? Tu dois respecter l'esclave. Et dans Galates, au chapitre 3, verset 28, Paul rappelle à tous ces juifs qui étaient là, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, il n'y a plus ni esclaves. Et une chose que j'avais jamais remarquée, qu'il dit aussi, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Parce qu'ils avaient l'habitude, les Juifs, on le sait très bien, qu'ils priaient ainsi. Merci Dieu de ce que tu ne m'as pas fait non-juif. Mais aussi, ils disaient, ni esclave, ni femme. Et Paul veut mettre un terme sur tout cela. Nous sommes tous les mêmes en Christ. Mais l'homme, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, a été toujours méchant, cruel, et il exagère à chaque fois. On dit, à l'époque, qu'en Grèce, ainsi que la Rome, les esclaves étaient plus nombreux que les hommes libres. À Rome, sous Claude, les esclaves formaient la moitié de la population. On disait même que la ville, dans la ville, il y avait 2 ou 3 esclaves pour une personne libre. C'est énorme. C'est énorme. Les familles riches, à cette époque-là, ils avaient plus ou moins 10 000 esclaves. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait certains riches, même 20 000 esclaves. J'ai regardé un peu plus près la population de Jumet, mais les chiffres sont pas exacts, c'était des chiffres de 2008. À cette époque, il y avait déjà 24 000 personnes à Jumet. Ça veut dire qu'un riche avait quasiment la population de Jumet, à lui seul. Et ses maîtres pouvaient les vendre. Ils pouvaient même les séparer. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal au cœur. Séparer, ça veut dire que moi, si je suis esclave avec ma femme et mes enfants, ils pouvaient me retirer et me séparer de ma femme pour aller autre part. C'est horrible. Séparer de mes enfants. Ils pouvaient le faire, le maître. Ils pouvaient les torturer, même les tuer. Il est dit même que certains esclaves n'avaient même pas de nom. Même pas de nom. Un chrétien dit, ce sont des outils vivants. Des outils vivants. Mais l'esclavage a été aboli par l'Angleterre en 1883, puis suivi la France en 1848, puis les États-Unis en 1865 et par le Brésil en 1888, puis condamné par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Alors, c'est fini, l'esclave, il n'y a plus. C'est faux. Aujourd'hui, 2017, les chiffres sont pas vraiment exacts. Certains disent plus ou moins 37 millions de personnes sont esclaves. Certains disent 30 millions. Il y a une augmentation de 20% par rapport à les chiffres de 2013. 20%. Au lieu de descendre, on remonte. Les esclaves aujourd'hui, c'est travail forcé, des enfants vendus, des jeunes femmes mariées de force. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait vraiment du mal. un grand trafic sexuel. Et les pays, je vais en citer quelques-uns, ce sont l'Inde, la Chine, le Pakistan, Nigeria, le Congo, Thaïlande, la Russie, etc., etc. L'homme est corps méchant. Il est cruel encore aujourd'hui. Il exagère encore aujourd'hui. L'Ancien Testament, le Nouveau, est aujourd'hui 2017. Et si on s'arrête et on se dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il y a une femme, une âgée, a posé la question, heureusement qu'elle ne m'a pas posée à moi, je ne savais pas y répondre, mais elle a posé une question à un chrétien qui s'appelle Tom Julien. Pourquoi Dieu n'a pas mis un halt quand Adam et Ève ont commis le péché? Pourquoi lui, le Dieu, savait ce qu'il allait se passer après? Pourquoi il n'a pas mis un halt là? Et Tom Julien, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour, une réponse que je trouvais vraiment excellente, il a dit tout simplement, Dieu veut sauver Adam et Ève. Dieu veut sauver Adam et Ève. C'est vrai, ils ont commis le péché. Mais il faut que quelqu'un paye pour le péché. On en a parlé ce matin. Et là, on va revenir après aussi. Et Dieu, à travers de l'esclavage, Dieu veut parler. Il veut parler à chacun et à chacune. Dieu est clair. Il nous dit, tous ceux qui commettent le péché sont esclaves du péché, c'est la mort. Mais dans Romains, l'apôtre Paul, dans le chapitre 6, où on va s'arrêter un petit peu, bien sûr, il faudrait lire tout le chapitre, mais ça prendrait trop de temps, mais les versets 16 à 18, Paul nous rappelle que nous sommes tous esclaves, tous, soit du péché, c'est la mort, soit esclaves de la justice, qui est la vie. Et on va lire ces trois versets qui se trouvent dans Romains au chapitre 6, les versets 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Juste pour remettre ces paroles dans son contexte, et après, on va passer à la première question. Paul rappelle à ses frères de l'église de Rome ce qu'ils étaient avant leur conversion. Ils étaient esclaves du péché, c'est la mort. Mais maintenant, vous êtes esclaves de la justice qui est la vie. Alors, ma première question, c'est, et moi? Je suis quoi? Esclave du péché? C'est la mort. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur, qui veut dire comme Maître, alors tu es esclave du péché, c'est la mort. Parce que c'est une autre personne qui est le Maître de ta vie. Le Maître de ta vie. Alors là, c'est difficile d'en parler un dimanche matin. Je le dirai vraiment avec toute la sagesse de Dieu, je voudrais bien le dire, mais que Dieu m'aide et qu'il nous fasse comprendre. On n'est pas tous il n'y a personne que Satan est dans l'homme. C'est pas ça que Dieu veut dire. Oui, il est le maître, mais les hommes n'ont pas Satan en eux. C'est pas ça que Dieu veut dire. C'est plutôt dans le sens que Satan, lui, met des pièges par ses œuvres. Par ses œuvres, il nous vend dans certains domaines. Et ces domaines, ce sont bien sûr l'immoralité. Il veut te vendre dans l'impureté, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la jalousie. Mes frères et sœurs, quand Joseph a été vendu comme esclave, au juste, c'est pas lui qui est esclave, c'est plutôt ses frères, ils sont jaloux. Ils sont esclaves de la jalousie, de la colère. Nous sommes parfois esclaves de la colère, dans l'ivrognerie, dans l'orgueil. Et on peut rajouter. Ce maître nous dit à chaque fois, à tous, pas rien qu'à nous, que nous n'avons pas de nom. Que nous n'avons pas de nom. Nous sommes que des numéros. Combien de fois je l'entends à l'usine? Moi, je suis le 7453. Toi, t'es combien? Nous sommes que des numéros. Il veut nous transmettre ce message. J'ai besoin de changer de maître. J'ai besoin de changer de maître. Mais là, il y a une dette. Il y a une dette à payer. Et l'homme est impossible de payer. Impossible de payer. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Pour racheter le prix de ton péché. Mais c'est la mort. Jésus a payé ce prix sur la croix. Mais il y a une chose qui est très importante. C'est que Jésus demande, veux-tu que je te rachète? C'est vrai, il est mort pour tous. Mais il est mort à partir où toi, tu veux être racheté, où tu veux changer de maître. Et il pose la question, veux-tu changer de maître? La première question, veux-tu changer de maître? Et la deuxième question, il y a deux questions, mes frères et sœurs. La deuxième question, toi qui as choisi maintenant Jésus comme maître, alors tu es esclave de la justice qui est la vie. Alors tu es esclave de la justice qui est la vie. Qui ne veut pas dire, mes frères et sœurs, et là je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on pêche plus. Non, malheureusement. Le contexte montre qu'il s'agit de la libération du péché en tant que puissance dominante notre vie. Mais je suis appelé, comme Aurélien l'a dit, une vie de sanctification. Ça veut dire tout simplement de venir à chaque fois auprès de Jésus à cette croix et demander pardon. Demander pardon à chaque fois que je commets le péché. Être esclave de la justice. Elle m'applique quoi dans ma vie, au juste? Et là, je vais essayer, bien sûr, de mettre ces points dans l'ordre. Et la première chose que je vois, l'application dans ma vie, être esclave de la justice, c'est être esclave de Jésus-Christ. Qui veut dire, je suis libre en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans Jean au chapitre 8, au verset 31, Jésus parle à cette époque-là avec des religieux qui croyaient être libres. Et aujourd'hui, encore beaucoup de personnes croient être libres, les religieux comme les non-religieux. Et Jésus dit à ces personnes, vous n'êtes pas libres. Pour être libre, il faut que le Christ vous affranchisse. Il faut recevoir le Christ dans notre vie. Pour être libre. Verset 36 au chapitre 8. Il y a un détenu qui a dit, maintenant ça, il y a des années. Il a dit, quand j'étais libre, ça veut dire dans la vie de tous les jours, je croyais être libre. C'est quand je suis rentré dans la prison que j'étais libre. Comment ça? Dans une pièce de 4 mètres carrés, tu es libre. Mais tout simplement, c'est là qu'il a reçu le Seigneur Jésus comme maître. Il est libre dans cette pièce de 4 mètres carrés. Il est libre. Elle m'applique que je suis libre en Christ. J'ai reçu la grâce qui est la vie éternelle. J'ai en moi cette assurance qu'il m'a donné la vie. Je suis esclave de la justice. J'ai reçu la liberté. La liberté. Elle m'applique au quoi encore au juste? Être esclave de la justice. Une fois qu'on est libre, je porte un nom. Je porte un nom. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Que Dieu, je peux l'appeler maître, mais aussi mon papa. Mon papa, il est mon maître, mais il est mon papa. Je suis libre et je porte ce nom, enfant de Dieu. Elle m'applique, bien sûr, être esclave de la justice, une vie qui glorifie Dieu. Et là, je reviens dans le contexte de l'apôtre Paul, au chapitre 6, au verset Dieu. Mais Dieu soit loué. Mais Dieu soit loué. Je suis libre du péché. Une vie qui glorifie jour après jour. Dieu m'a libéré. Mais pas simplement de ça. Je peux le glorifier quand je lavais ma voiture. Pourquoi? Parce que combien de personnes voudraient une voiture et ils n'ont pas aujourd'hui? Et moi qui l'ai, pourquoi je glorifie pas Dieu d'avoir une voiture? Glorifier Dieu quand je tonds l'herbe, de voir cette belle couleur de l'herbe. C'est vrai que parfois il y a des mauvaises herbes. Mais à travers de ces mauvaises herbes, combien Dieu me dit, tu portes cette belle couleur. Mais parfois, Gino, il y a ces mauvaises herbes. Demande pardon. Ou, oui, vous portez cette belle couleur, mais sache qu'encore alentour de toi, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Je glorifie Dieu quand je coupe l'herbe. Je glorifie Dieu quand je suis en vacances. C'est vrai que c'est pas bien de le dire, mais combien, mon épouse et moi, quand on se baladait sur le long de la mer, combien on n'a pas dit merci Seigneur que tu nous as donné ces vacances. Merci Seigneur, ce privilège que tu nous as donné. Mes frères et sœurs, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous portons ce nom, mais nous devons aussi louer le Seigneur. Elle m'applique quoi aussi? Être esclave de la justice. C'est que j'ai choisi mon maître, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que je dois prendre exemple de mon nouveau maître. C'est la première chose, je dois parler avec vérité. Ce que j'avais avant, ce maître, était un maître qui était menteur. Maintenant, j'ai choisi un maître qui dit la vérité. Et je suis appelé à dire la vérité. Je dois agir comme lui, avec plein d'amour, et non avec méchanceté. Je dois agir comme lui, être patient. Combien de patience il a eu notre Dieu envers chacun de nous. Alors pourquoi pas avoir la patience pour les uns et les autres? De la douceur, dans la joie. Et là, juste une petite parole dans la joie, parce que parfois on se dit, C'est difficile d'être dans la joie tous les jours, avec ce qui se passe, avec ce qu'on fait. Mais là, plutôt dans le contexte, dans la joie, c'est plutôt de savoir que tu es libre. Là, on est dans la joie. Waouh ! Je suis plus condamné. Je suis sauvé. C'est une joie que l'apôtre Paul était dans la prison et qu'il voulait transmettre à ses frères et ses sœurs. Oui, être bon comme notre Dieu, être bon, qui veut dire être généreux. Est-ce que nous sommes généreux? Prenons l'exemple de notre Dieu, être fidèle comme notre Dieu. Être libre, être enfant de Dieu, glorifier Dieu et prendre son exemple. Elle m'applique ces choses. Et une dernière chose, être esclave de la justice, c'est que nous sommes tous, mes frères et sœurs, membres au service de Dieu. Nous avons reçu tous un talent, parce que nous formons tous une famille. Je suis esclave, mais j'appartiens à une famille, à une famille. Nous sommes plus seuls. J'ai un frère, une sœur. Nous sommes tous les mêmes. Il n'y a plus de race. Pardonnez-moi si je suis encore italien, mais en Christ je suis. Christ est en moi. Nous sommes tous en Christ. Oui, je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Je glorifie Dieu. Je prends son exemple. Et je suis dans une famille. Esclave de la justice. Bien sûr, on pourrait rajouter encore beaucoup d'autres choses. Mais la conclusion, nous devons choisir. Soit esclave du péché, c'est la mort, soit esclave de la vie, qui est la liberté. Et là, je voudrais dire une petite chose, bien sûr, qui est importante. Être libre ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes. Loin de là. Être libre ne veut pas dire non plus « je fais ce que je veux ». Il y avait un homme qui a élevé un oiseau en cage. Après plusieurs années, il avait oublié de fermer la cage. Et cet oiseau était prêt à sortir, il hésitait. Et puis il sort, et il vole, et il vole. Cet oiseau n'est plus revenu. Mes frères et sœurs, c'est quand cet oiseau a vu qu'il était libre, une fois qu'il a commencé à voler. C'est quand nous avons vu qu'on était libre, une fois qu'on est en Christ, qu'on a plongé dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on a vraiment plongé dans ses bras. Dans notre site internet, la page d'accueil, et merci Anthony pour ce que tu fais, En grand, c'est marqué « liberté », mais c'est marqué « en Christ ». Et le fond d'écran, nous voyons des oiseaux qui volent. Nous sommes ces oiseaux qui volent. Mais attention, attention pas de retourner dans la cage. Le peuple de Dieu, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, à peine qu'ils sont sortis, ils voulaient retourner en arrière. Et j'ai vu un frère que j'ai lu et j'ai trouvé ça merveilleux, a dit « Résister à la tentation, c'est vivre la liberté à laquelle Christ nous a appelés. » J'ai trouvé ça beau. « Résister à la tentation, c'est vivre la vie de liberté à laquelle Christ nous a appelés. » Dieu nous a appelés à la liberté. Et ce maître, un jour, il reviendra nous chercher pour demeurer dans sa maison. Gloire soit à notre maître qui est notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ. Amen.